Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement. Merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. Merci si vous nous écoutez en podcast. À suivre, notre invité, c'est Gad Elmaleh. On parle de son dernier spectacle à voir vendredi sur Canal+. Ça s'appelle D'ailleurs. Stéphanie Loire, bonjour.
Bonjour Philippe Vandel.
Et d'ailleurs, bonjour Olivier Benkemoun.
D'ailleurs, bonjour Philippe Vandel.
Et bonjour Jean-Luc Lemoine.
Bonjour Philippe Vandel.
Jean-Luc, tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous qui aimez croquer la vie à pleines dents comme dans un sandwich jambon cornichon.
Très belle métaphore.
Vous revenez pour nous avec plein de petits conseils santé.
Exactement Philippe, j'ai pas l'hygiène de vie la plus exemplaire, mais ça m'empêche pas de penser à prendre soin de moi. Hein. Et puis j'ai remarqué que vous aussi, il y a eu un peu de laisser-aller ces derniers temps. Je sais pas si vous avez eu beaucoup de fèves à la galette de roi, mais visiblement vous avez retenté beaucoup de fois votre chance. Hein. Non, zéro jugement. Moi je les adore vos petites poignées d'amour. Ça me donne envie de me mettre derrière vous, de les attraper, de faire la chenille dans les couloirs d'Europe 1. Mais je pense avant tout à votre santé. Je suis donc parti pour vous à la pêche aux nouvelles tendances pour rester en vie. Et j'ai regardé mon émission santé préférée, Estelle Midi, où un journaliste a essayé de nous convaincre du succès du Dry January.
C'est de plus en plus populaire. 60% des Français déclarent qu'ils en ont entendu parler. 10% des personnes interrogées avaient l'intention de relever le défi.
Pardon, mais quand il dit de plus en plus populaire, 10% des gens avaient l'intention de le faire. Populaire, j'ai été chercher la définition dans le dictionnaire, ça dit qui à la faveur du plus grand nombre. Et c'est marrant parce que moi je connais beaucoup de nombres plus élevés que 10, comme 11 par exemple. Petit sondage, qui fait le Dry January ici?
Moi je l'ai fait 2 jours.
Ouais. Moi je l'ai fait un mois, il y a quelques années, voilà. J'ai vu que je pouvais le faire, je le fais plus.
Je m'en doutais.
Moi, je tiens,
Olivier dit oui.
Moi je tiens.
Les autres c'est des sacs à pain, je le savais.
Moi, je tiens, il y a les yeux ici.
Eh bien vous avez de la chance maintenant, il y a mieux que le Dry January. Arrêtez tout, vous n'êtes pas prêts.
On va s'intéresser Stéphane aujourd'hui au Dump January. C'est le mois presque sans alcool, c'est le Dry January mais allégé quoi.
Exactement.
Le Dump January, c'est quoi ce concept? Alors je suis pas bilingue, j'ai été chercher Dump, ça veut dire décharge en anglais. Je me suis dit, cool, pendant un mois tu vis dans une décharge, donc t'as peut-être moins envie de boire. Bah non, c'est juste qu'Estelle avait mal lu sa fiche.
Ah mais Dump, pas Dump.
Dump.
Ah mais tout à l'heure, je comprenais pas.
Bah, c'est quoi Dump?
Mais Estelle, comme tu l'as dit, j'étais humide.
Oui, le janvier.
Le janvier humide.
Voilà, on avait le janvier sec, maintenant on va avoir le janvier humide. D'ici 2 ans, je pense qu'après le journal, on aura la météo de la picole. Alors sur le centre-ouest, janvier sec, dans le nord, janvier humide, et sur la Bretagne, janvier diluvien. Donc pour résumer, le Dump January, c'est pour ceux qui ont de la volonté, mais pas trop. On peut avoir un exemple concret?
Ne boire par exemple qu'un seul verre de vin pendant un repas, ou ne boire de l'alcool qu'un seul jour par semaine.
C'est déjà boire beaucoup, non?
Un seul verre de vin pendant un repas.
Bah c'est à tous les repas, oui.
Non, mais de temps en temps.
Voilà la solution. Pour réduire sa consommation d'alcool, il faut boire un verre de vin à tous les repas, mais en réduisant le nombre de repas. Bon, voilà. Bon, en voyant ça, tu te dis quand même, qui a eu cette idée à la con de donner un côté événementiel à un truc qui devrait être normal, c'est-à-dire boire avec modération.
Derrière tout ça, le lobby de l'alcool. Vous savez, les fabricants de vins et spiritueux qui essayent, comme ils le peuvent, de retenir une partie de la consommation.
Voilà, c'est juste une contre-attaque au Dry January, un nouveau coup du marketing. Encore une fois, je me sens sali, Philippe. J'ai l'impression qu'on arrache mon innocence, telle une petite fleur sans défense. Comme le jour où j'ai appris qu'il y avait quelqu'un dans Casimir ou que mes parents avaient déjà couché ensemble. Vous allez voir qu'un jour, le lobby des dentistes va nous sortir le mois sans dentifrice. Hein, pour qu'on ait tous des caries. Et on le fera. Nous sommes des moutons, Philippe. Le seul truc qui me donne de l'espoir en l'être humain, c'est quand j'entends ce genre d'infos.
Les chiffres que je vous donne sur la baisse de la consommation, ça concerne les moins de 35 ans, parce que les plus de 50 ans, eux, avaient augmenté leur consommation d'alcool pendant le Dry January.
Non. Vive les boomers. Vous vous rendez compte? Ils avaient raison, les gens de la pub. Hein. Ils s'adressent à la ménagère de moins de 50 ans, car les plus de 50 ans, ils n'en ont plus rien à foutre. Ils sont dans un processus d'autodestruction. Bon, au final, elle fait quoi, Estelle? Elle a été convaincue par le Dump January?
Moi, je fais le Dry January, donc...
Moi, je fais le Dump, finalement.
Le Dump.
Le Dump.
Oui, ça va.
Le
Dump. Je fais un autre truc.
Voilà, Estelle vient d'inventer en direct une nouvelle tendance. L'autre truc January. C'est un mélange. Certains jours, vous faites le Dry January, d'autres, vous faites le Dump, et d'autres, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi, Philippe, vous voulez savoir?
Dites.
J'ai arrêté tout alcool. Je bois plus que des boissons sucrées. Matin, midi et soir. Et je me sens bien. Enfin, jusqu'à ce que je tombe sur le docteur Gérard Kirzek dans Télématin.
L'étude chinoise vient de montrer que plus vous consommez du sucre, plus vous perdez vos cheveux. Et une boisson sucrée par jour, c'est 30% de perte de cheveux en plus.
Je sais plus trop du coup. Hein. Entre le risque de cirrhose et le risque de calvitie, je crois que je vais plus boire du tout. Adieu à tous.
Et demain, c'est vendredi. Merci beaucoup, Jean-Luc. À demain, on vous retrouve tout à l'heure aussi à 16h, de 16 à 18h avec Stéphane Bern sur Europe, dans Historiquement Vôtre. Stéphanie Loire, on a déjà l'info pour le Dry January.
Oui, Philou.
Donc maintenant, l'indispensable.
Mais je fais le dump, en fait, je fais le modéré.
Ouais, le dump.
Alors, aujourd'hui, je vous parle d'un coup de cœur musical que j'ai eu pour une artiste qui s'appelle Mélissa Lavo, qui chante le déracinement mieux que personne. Et je vous parle de la tournée de la Madonna qui revient en France.
Olivier Benkemoun, c'est la même question.
Ouais, ben moi, je fais l'autre truc January, finalement. Ouais. Je fais pas totalement le. Voilà. Et moi, je vais vous parler d'un film formidable qui s'appelle Youssef Salem a du succès. C'est un film porté par Ramzi Bedia. Ça raconte l'histoire d'un écrivain qui va avoir beaucoup de succès en racontant l'histoire de sa famille, mais qui veut surtout pas que sa famille le sache. Surtout pas qu'elle tombe sur le livre qu'il a écrit.
C'est presque une histoire vraie, cette histoire-là. Dans un instant, Gad Elmaleh, pour parler de son nouveau one-man show, d'ailleurs, qu'on pourra voir sur Canal+, il raconte aussi des histoires vraies. Mais d'abord, c'est musique, le duo Vianney et Ed Sheeran, ça s'appelle Call on Me sur Europe 1.
Sans toi, solitude sans toi.
C'est qui, c'est beau ça? Call on Me, c'était un trio, c'était Vianney, Ed Sheeran, Gad Elmaleh sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
À la base, c'était un duo, Gad Elmaleh l'a pimpé. Bonjour Gad Elmaleh.
Bonjour.
Comédien, réalisateur, humoriste, j'ajoute chanteur, vous avez beaucoup de métiers, aussi beaucoup d'actu. Vous avez signé, sorti il y a 2 mois, un film qui ressemble à aucun autre, dans lequel vous racontiez votre découverte, votre amour pour la Vierge Marie. Vous avez vu nous en parler, film totalement atypique et qui a trouvé son public, comme on dit, reste un peu et toujours à l'affiche. 425 000 entrées et c'est pas fini.
Ah non, 475 000.
Alors, vous êtes plus au courant que Philippe, moi. Merci beaucoup.
Vous savez, sur des petits films comme ça, la différence entre 420 et 475 est très importante.
Bien sûr, puisque 400, on est plus près de 400. 475 000, on est plus près de 500.
De 500.
Et 500, c'est un demi-million.
C'est un vrai bonheur. Ce qu'on vit, c'est une grande joie.
Votre actu immédiate est à la télé et sur scène. Votre actu, c'est ce dernier spectacle qui s'appelle D'ailleurs, qui est à voir à partir de demain sur Canal+. Donc demain, vendredi, 21h, et il sera évidemment visible sur MyCanal. D'ailleurs, ça veut dire que vous venez d'ailleurs? Ou c'est un spectacle à base, je pose la question alors que je l'ai vu, à base de digression, en fait, d'ailleurs.
C'est une bonne question. Il y a le d'ailleurs identitaire, géographique, je viens d'ailleurs. Et il y a ce d'ailleurs, comment vous avez appelé ça?
Une digression.
Ouais.
D'ailleurs, c'est quoi ce pull?
Ah d'ailleurs, oui c'est ça. Ouais. Mais il y a le côté d'ailleurs, j'ai un truc à vous dire. D'ailleurs, il faut qu'on en parle.
Ouais.
D'ailleurs Philippe, je voudrais, d'ailleurs, c'est un peu pour attirer l'attention et dire aux spectateurs, voilà, c'est un nouveau spectacle sur des thématiques que j'ai vraiment envie de développer en les assumant à ce moment de ma vie aujourd'hui, que ce soit l'idée de la mort, la spiritualité, mon passage à
ça démarre en disant il y a quelque chose qui a changé, maintenant j'ai 50 ans.
Oui.
Qu'est-ce que ça change pour un humoriste?
Dans la forme, je crois qu'on est moins en quête de validation, on a moins besoin de prouver, mais on est simplement dans le ressenti et on a moins peur des réactions des gens. Les thématiques, elles ne changent pas. Et puis, on est moins dans ce truc où on arrive sur scène avec « ça va, Paris
!» Ah oui.
Et on a besoin finalement de contenance. Mm. Vous voyez, il y a quelque chose quand on démarre, ou alors même quand on commence à être connu, même dans les grandes salles, on veut faire du bruit, on se prend tout à coup pour une rockstar, c'est rigolo. Mais c'est pas ça finalement le fond. Le fond, c'est faire des bonnes vannes qui claquent, comme on dit dans le jargon stand-up-ique français, et connecter avec le public. Et épurer un peu, éliminer peut-être les artifices. On n'a pas besoin de danser pendant 4 minutes 30 en début de one-man show. Je le
on
faisais.
On est d'accord. Ouais.
Et je pense que plus on danse dans un one-man show, et moins on a de blagues en fait.
Vous placez ce spectacle, je suis assez d'accord, sous le signe de la sincérité et surtout de la vérité. Parfois c'est très personnel. On sait que vous avez une histoire d'amour avec une princesse monégasque, vous ne parlez pas d'elle, mais vous avez eu un enfant, votre plus jeune fils. Et même si vous êtes séparés, il a toujours ses deux grands-mères. Donc, votre maman et Caroline, je veux passer un extrait parce que c'est tellement dingo, c'est tellement agréable de voir ça. Vous racontez l'opposition.
Des deux mondes, des deux univers en tout cas, oui.
Avant qu'on entende l'extrait, elle est comment votre maman, pour qui ne la connaît pas? Moi, je sais comment est votre maman parce j'ai vu le film précédent, j'ai vu votre maman à l'œuvre. Donc, je sais comment elle est.
Complètement, oui. Elle est, je pense, non, elle n'est pas venue sur ce plateau.
Non, mais comme j'ai vu le film, reste un peu, oui. c'est votre vraie maman, votre vrai papa. Donc,
écoutez,
j'ai vu votre maman.
Ma mère a une confiance en elle qui est celle des amateurs. Par exemple, elle fait de la peinture dans la vie, elle accroche ses tableaux partout parce que c'est pas une véritable artiste. Je pense que les artistes doutent. Ma mère a joué dans mon film, elle pense qu'elle va être nommée au César. Mais nous, les acteurs, on a beaucoup de pudeur. On a même une espèce de coquetterie. Non, tu sais, c'est pas important. Elle dit, quand même, j'ai bien joué. Ils vont me nommer au César. Bon, peut-être qu'elle aura le César du jeune espoir à 83 ans. Ce serait joli comme message, en tout cas.
Vous allez présenter la belle famille à votre maman.
Oui, et ça, c'est une séquence importante et de ma vie et du spectacle. Puisque c'est Monaco à travers le regard de ma mère.
Voilà, et elle fait, je ne sais pas comment le raconter, elle fait la révérence de Warzazak.
Oui, parce qu'elle s'est appropriée finalement. C'est touchant, c'est assez émouvant. Moi, j'ai vécu des choses très belles à Monaco. Et puis, j'étais accueilli avec beaucoup d'amour. Mais je raconte cette chose qui est folle, parce qu'on ne peut pas faire semblant que c'est banal. J'ai vécu quelque chose d'unique, de singulier. Mais c'était plus intéressant de le raconter à travers le regard de ma maman, qui vient de loin finalement, géographiquement, socialement, humainement. Et donc c'est émouvant, quoi. Mais en tout cas, c'est des beaux souvenirs pour moi.
Passage savoureux, vous racontez l'opposition entre les deux grands-mères de votre fils. Mmh. Comme vous dites, c'est deux salles, deux ambiances.
Quand il va passer le week-end chez sa grand-mère à Monaco, je vais le chercher le dimanche. L'autre jour, je lui ai dit, t'as fait quoi, mon fils? Il m'a dit, papa, c'est bien simple. La grand-mère, samedi, on a appris la quasi-totalité des noms des espèces de papillons vivant dans le sud-ouest de la Méditerranée. Et dimanche, on a assisté à une conférence sur la catapulte. C'était super. Quand il était chez ma mère la dernière fois, le dimanche, je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Il m'a dit, samedi, papa, toute la journée, on a cherché le portable de papy. Je lui ai dit, dimanche, il m'a dit, on l'a trouvé.
C'est tellement génial et ça ne peut pas s'inventer.
J'aime cet extrait parce qu'il est vrai. Et je pense que c'est dit avec affection, avec amour. Et j'ai toujours critiqué avec affection le manque de pédagogie, même de mes parents. C'est peut-être culturel. Moi, mon père, quand il accueille mon fils à la maison, parfois il fait des trucs bizarres, genre de... Il lui fait peur, mon fils a peur, il dit « Oh là là, il a eu peur » et c'est tout, c'est le seul jeu qu'il fait. Je dis « Mais papa, invente un truc, essaie d'y mettre du tien. » Donc, c'est ça que je critique avec tendresse.
D'autres passages savoureux, je fais un petit teaser, les groupes WhatsApp, les parents d'élèves, ouais. Et les groupes WhatsApp de parents d'élèves, c'est avec Gad Elmaleh, juste après ça, tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Gad Elmaleh, ça s'appelle Ailleurs, c'est son dernier spectacle. Et il sera visible demain, vendredi, sur Canal+, ce sera à 21h. Et puis évidemment, quand on voudra, ensuite sur MyCanal, quand on voudra, ça veut dire quand vous voulez. Vous racontez, c'est du stand-up ce spectacle, vous racontez votre vie. On parlait de votre fils, très important, l'éducation. Vous êtes convoqué au sujet de votre fils par sa maîtresse de CE2. Racontez.
Ça m'est arrivé, c'est-à-dire que... À un moment donné, je trouvais que l'école était trop en communication avec nous, finalement. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à mon enfance et à ma scolarité, où mon père savait vaguement où était l'établissement, où était l'école. J'exagère à peine. Et je crois qu'il y a finalement trop d'informations sur nos enfants. On sait en temps réel exactement ce qu'ils font. On essaye d'analyser tout ce qu'ils font. On essaye de comprendre. Et donc, c'est vrai que j'ai été convoqué une fois par la maîtresse de mon fils qui m'a expliqué avec gravité, avec suspense aussi. Il faut que je vous voie, il faut que je vous parle. Et j'étais un peu flippé. Qu'est-ce qui se passe? Surtout que l'objet du mail, c'était « Votre fils urgent ». Et alors elle hésite, bon c'est vrai que alors les apprentissages ça va, mais il faut que je vous dise que voilà, avec beaucoup de gestuels, beaucoup de... Et là alors c'est vrai qu'à ce moment-là je me dis elle va finir dans mon spectacle, c'est vrai, c'est pas sympa, mais c'est comme ça, à chaque fois que je rencontre des personnages intéressants, je dis ils vont terminer dans mon spectacle. Et là finalement elle craque, elle me dit je vous le dis, il tient très mal son stylo. Et moi,
vous savez pourquoi je ris? Parce que quand j'ai vu le spectacle, je me suis dit, il exagère.
Non.
Et je ris parce que maintenant, je vois que c'est vrai.
Mais oui.
Non, mais t'es convoqué pour ça.
Et alors, je suis d'accord.
Urgent.
Je suis d'accord qu'il y a peut-être des choses à faire, à rectifier. Mais le côté solennel sur il tient très mal son stylo. J'ai eu un flash de mon enfance où je me suis dit, mais waouh, je sais même pas à quel âge j'ai su tenir un stylo. Alors, je veux pas faire le coup de c'était mieux avant et qu'on en fait trop. Mais peut-être parfois, il faut pas surprotéger.
Elle va plus loin parce qu'elle vous demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de lui, de votre fils. Il y a une liste et une ribambelle, une recension de professions paramédicales.
Ouais, pour la psychomotricité, pour l'ergothérapeute, pédopsychiatre, orthophoniste. Alors qu'elle-même, en me parlant, avait un comportement assez étrange avec avec une dyslexie. Donc j'essaie de. Après, mon métier, c'est de faire rire. C'est un peu d'exagérer. Je m'adresse aux instituteurs, aux institutrices avec beaucoup d'affection en leur disant que c'est clair que c'est une exagération.
Je vais vous dire, c'est un spectacle extrêmement bienveillant et il n'y a jamais d'aigreur. Autre chose qui va parler à tout le monde, les groupes WhatsApp et l'énervement que ces groupes WhatsApp peuvent parfois inspirer.
Aujourd'hui, pour la moindre petite occasion, le moindre petit dîner entre potes, on monte un groupe WhatsApp comme si on allait gérer un truc de fou. Tu montes un groupe, ok, tu crées un groupe WhatsApp, c'est bon, on va dîner, ok, t'avertis Mathilde, d'accord, tu mets Rémi dans le groupe, c'est parti, ok, je peux plus, je sors des groupes, j'en ai marre, je veux plus être dans des groupes. En plus, c'est chaud, ça se voit. Quand tu sors d'un groupe, hein, c'est écrit en grand, t'es cramé, genre « Regarde à qui t'es le groupe ah. !» Il y en a un, je peux plus, les amis. Le groupe WhatsApp le plus insupportable pour moi, c'est celui des parents d'élèves. Non, pas la famille, je le connais, famille. Tu l'as, famille? Family, hein? Vous l'avez, family? On l'a amené en anglais, ça, moi, c'est plus cool, family. Groupe WhatsApp de la famille, on n'a pas un, il parle anglais, il s'appelle family.
Et alors, le groupe WhatsApp des parents d'élèves, c'est complètement dingue, parce que vous disiez urgent. Votre fils de CE2 tenait pas très bien le stylo, et là, une alerte que vous recevez le soir.
Ah oui,
parce qu'on reçoit alerte, mais non, mais on est en panique.
C'est ça, mais ils sont surinvestis. Il y a des parents d'élèves qui sont vraiment très impliqués dans la vie scolaire de leur enfant. Et donc, dans ce groupe WhatsApp, un jour, je reçois une notification à 23h15, je suis dans mon lit, et il y a la maman d'une petite fille, parce que dans les groupes WhatsApp, ils se nomment par le maman ou papa et le prénom du petit garçon ou de la petite fille. Donc ouais. Là, c'est maman Bérénice qui écrit. Il y a papa Victor, il y a maman Bilal, il y a papa Roger. Et là, maman Bérénice écrit à 23h15, alerte poésie. Et moi, je trouve ça mais tellement surréaliste. Alerte poésie. Ça, je dis, mais alerte enlèvement. Ouais. Là, je sors de chez moi. Ouais. Je veux collaborer, je veux aider.
Faut et 23h15, ça ne peut pas attendre le lendemain.
Voilà. Et alerte, je sais pas moi, alerte attentat, c'est grave, mais l'alerte poésie, quoi. Et donc, Bérénice a oublié son cahier de récitation. Est-ce que quelques bonnes âmes pourraient m'envoyer une capture d'écran de petit écureuil? Et je le fais pas, mais j'ai envie d'écrire maman Bérénice. Il est 23h15, ils sont en CE2, va dormir, demain est un autre jour, va plutôt t'occuper de papa Bérénice. Arrêtons, quoi. Donc, c'est cette espèce de sur-dramatisation de la scolarité et de l'enfant qui devient comme ça. Un peu qui prend trop de place finalement. C'est aussi un peu c'est assez, je sais pas si c'est parisien, mais c'est boboïsant quand même. C'est boboïsant.
C'est boboïsant. Je confirme. Quelle est la différence entre le show que vous avez donné et ce qu'on voit sur scène? Est-ce qu'il y a beaucoup de coupes?
Il y a des coupes, pas simplement des coupes de matière, de gags. C'est tout simplement que parfois le live supporte certains temps que l'image à la télé ne supporte pas, qui sont des temps trop longs, de suspens, de regards. Et j'ai voulu que ce soit rythmé pour la télé et le revisiter pour la télé, le revoir pour la télé. Notre manière à nous de regarder la télé a changé. Il y a une rythmique qui est différente. Après, c'est le show. Vraiment.
Moi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous coupez pas quelque chose qui est toujours coupé. C'est quand il y a un débilos qui crie au fond de la salle, ah, là, il y a une interaction avec lui, vous l'avez laissé. Et quand il y a le caméraman qui porte le steadicam et qui fait semblant qu'on ne le voit pas, vraiment. Comme si personne ne l'avait vu, et là, vous le mettez en scène et vous jouez avec ça.
Parce que j'ai envie d'utiliser ça, tout simplement parce qu'en live, c'est arrivé, je veux que les gens devant Canal+, aient l'expérience que les gens ont eue en live. Quand il y a un caméraman, en effet, avec cette machine qui est le Steadicam, qui est assez énorme, qu'on voit, qui marche sur la pointe des pieds pour être discret, soi-disant, alors que tout le monde l'a vu, moi, je trouve ça tellement énorme. J'aime bien dire les choses que tout le monde a vues. Et donc, c'est un peu l'expérience qu'il y a eu en live. Et je salue d'ailleurs la réalisation de Mehdi Idir, Minos, qui a fait une très, très belle... réalisation, qui est le réalisateur des films Patient, La vie scolaire. Et donc je suis très content du travail qu'il a fait parce qu'il a rendu en fait un grand réalisateur de captation. C'est pas quelqu'un qui invente des trucs complètement dingues, c'est quelqu'un qui est capable de vraiment de vous faire sentir comme si vous étiez dans la salle avec un parti pris.
Je vais pas tout spoiler, vous êtes à Monaco, vous êtes chez vos parents, vous êtes aussi à Hollywood, vous êtes à une fête où il y a Brad Pitt, où il y a George Clooney et la beauté de Brad Pitt racontée par Gad Elmaleh, c'est exceptionnel. Je fais exprès de m'arrêter là. On marque une pause, on parle musique avec Stéphanie Loire.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Gad Elmaleh, Ailleurs, ça s'appelle.
D'ailleurs,
son dernier spectacle.
Je ne peux pas, Philippe, vous laisser faire une erreur pareille.
Vous avez absolument raison, il faut rectifier. En tout cas, c'est demain, vendredi, à voir sur Canal à 21h et sur MyCanal. En parler musique, vous écoutez quoi en ce moment?
Alors, en ce moment, j'écoute du jazz. J'écoute beaucoup de jazz parce que je suis fan, parce que je suis un musicien un peu frustré. J'aurais beaucoup. J'écoute Diana Krall, j'écoute des chanteuses, des divas de jazz. Et j'ai ressorti ma platine vinyle. C'est là que tu vois que tu as vieilli.
Ouais, et ça marche?
Elle marche, oui,
parce
elle marche.
En général, ça marche plus que l'Elastoc, il a un peu vieilli. Et c'est là
moi,
qu'on voit qu'on a encore plus
c'est
vieilli.
Pas une Elastoc, c'est une fausse vieille.
Oui, mais c'est hyper branché le vinyle, il revient à fond.
Bien sûr que ça revient à fond. Stéphanie Houlard, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Gad.
Ça va?
La diva.
Cette voix, elle a une voix incroyable quand même.
J'allais dire la diva
c'est
de
elle,
la chronique
la diva.
Musicale. Mais évidemment.
Oh, ouais. Donc,
et vous démarrez par un coup de cœur. La même, dans la même phrase, elle a dit arrêtez, continuez.
Je voulais, feindre l'humilité.
Elle a tout compris,
j'ai pas
moi. Moi, je pense qu'elle a tout compris. Arrêtez, continuez, c'est le résumé d'une belle relation.
Dans la même phrase. Coup de cœur pour la chanteuse Mélissa Lavo.
Oui, Mélissa Lavo, vous connaissez ?
Oui.
Non.
Ah,
moi, non.
Alors, Mélissa Lavo, c'est une artiste qui chante le déracinement.
Ouais.
Elle fait partie intégrante de son histoire, hein, d'ailleurs, le déracinement, de son ADN musical. Ses parents ont fui Haïti pour le Canada. Elle a d'ailleurs depuis la nationalité française. Ses origines haïtiennes influencent sa musique.
Le spectacle de Gad, il s'appelle D'ailleurs.
Ouais.
Elle a fui Haïti pour le Canada. Elle a d'ailleurs la nationalité française.
Oui, en fait, elle a.
Dans la même phrase.
D'ailleurs.
Ouais.
D'ailleurs, elle a été au Québec.
C'était pour citer le nom du spectacle de Gad, tout simplement.
Tout ça pour signer notre pôle.
Les origines haïtiennes de Mélissa Lavo, elles influencent sa musique, tout comme le blues.
Le blues de quoi ?
Mais qu'est-ce que j'ai ?
Le blues de qui ?
Le blues
je
et
suis
le
désolé,
folk.
Il y a quand même des gens qui sont en train de se connecter sur europe1.fr qui disent il paraît qu'il y a la diva.
Et il y a surtout Mélissa, la pauvre, qui est en train d'écouter comment on est en train de démolir son intro, alors que Mélissa, elle a un joli titre qui va arriver.
Avec ce titre, elle rend hommage à la musique des troubadours haïtiens dans la langue de ses aïeux. C'est magnifique. Cet album-là, il s'appelle Radio Sewell. C'est une véritable pépite que je vous invite à découvrir si ce n'est pas le cas. Il était sorti en 2018. Son tout dernier album, je sollicite l'aide de Philippe Vandel, qui est notre dorale exploratrice de l'anglais.
Mama forgot her name was Miracle.
Voilà, pour prononcer son nom.
Maman oubliait que son nom, c'était Miracle.
Okay. Son titre d'album, parce qu'il se moque de mes prononciations, voilà, tout simplement.
Non, mais lui, il se moque de ses prononciations.
Mama forgot what? My name was Miracle?
Voilà, il va falloir aller à l'école en anglais. Hein.
You're listening to Europe One.
Yeah, thank you.
With Philippe Vandel and Oliver Ban Ki-moon.
C'est bien, on va faire tous les jingles, habillage comme ça.
Mais tellement bien.
Cet album, dont je ne citerai pas le nom, mais parce que vous l'avez bien fait, Gad, c'est un mélange de poésie et de tradition musicale. Elle explore cette fois un univers qui fait appel aux souvenirs d'enfance, univers dans lequel on a envie de se réfugier en temps de crise, globalement tout le temps, en 2023, celui de la berceuse. Est-ce que vous connaissez des berceuses ? Est-ce que vous en avez chanté à vos enfants ?
Waouh, je chante une. Oui, j'en chante encore une. C'est une chanson de mon enfance, une chanson marocaine, une chanson que j'ai dans le cœur, dans la tête, et il adore. Parce que quand je la chante, vraiment, ça me replonge en enfance et c'est très, très bon.
On a envie de savoir comment ça sonne, non ?
Mm-hmm. L'air, c'est. Et lui, il dit. Je fais tan nan 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 nan, pam pam pam.
Magnifique.
Voilà, ça s'appelle. Wow.
J'en ai tiré une sieste.
Al Atlas.
Ouais.
Très beau, merci pour ce moment.
Merci. Personne n'a dormi.
Mais on va y aller juste après. En plus de ça.
Merci pour le petit effet, s'il vous plaît.
La réverbe.
Il y avait de la réverbe. La petite réverbe.
On ne dit pas réverbe, on reste élégant. Merci pour le petit effet. Vraiment, c'est un effet vraiment effet ralgant. Quoi. C'est un petit effet qui est venu
c'était bien.
À point nommé.
Pour revenir sur Mélissa Lavo, moi, ce que j'aime beaucoup chez elle, en plus de sa voix féline, c'est que c'est une artiste qui est très spirituelle. Avec son quatrième album, elle explore donc la dimension thérapeutique de la berceuse, que je vous disais. Elle convoque à ses côtés d'autres sorcières du son, comme par exemple November Ultra, sur le titre Rose Water.
C'est beau. C'est bon, hein.
C'est magnifique.
Mais d'ailleurs, les berceuses, c'est toute une tradition, même chez les divas du jazz, lullabies. C'est vraiment une tradition, quoi, les berceuses, de reprendre comme ça des thématiques et de rentrer dans quelque chose qui est presque, non pas une transe, mais quelque chose de très spirituel, en
exactement,
tout cas, dans la berceuse.
Comme elle l'évoque, elle aussi.
Alors, le dernier album de Mélissa Lavo s'appelle donc Mama Forgot Her Name Was Miracle. Elle sera en concert au Théâtre du Châtelet à Paris le 20 janvier.
Oui,
donc c'est dans quelques jours, le 20 janvier.
Mais elle est où, Mélissa Lavo ? Pourquoi elle n'est pas là ?
Une annonce qui réjouit les fans du monde entier. Vous terminez cette chronique avec la tournée de Madonna.
Oui, pour célébrer ses 40 ans de carrière, la reine de la pop a annoncé une tournée mondiale. Ça va s'appeler le Celebration Tour, une tournée qui va passer par les États-Unis et l'Europe. C'est un show qui va être conçu comme un véritable best-of de sa discographie des 4 dernières décennies, avec des tubes qui font littéralement partie de la bande originale de nos vies, comme par exemple celui-ci.
Ah oui.
C'est trop bon. Le célébrer, je sais pas ce que ça donne chez vous, mais ici tout le monde danse.
Gad et Stéphanie font la choré.
Ah, c'est génial.
Cette tournée de Madonna va faire escale dans 35 villes, dont Vancouver, Los Angeles, New York, Las Vegas, Londres, Berlin, Milan, Amsterdam, pardon, je respire, évidemment Paris, pour les 22 et 23e fois de sa carrière. Elle va investir l'Accor Arena de Paris, ex-Bercy, et ce seront les 12 et 13 novembre 2023 pour deux concerts qui s'annoncent complètement zinzin. Imaginez-vous dans la salle, danser, chanter, vibrer en écoutant Madonna avec ça.
génial. Et c'est et ABBA qui prend les droits d'auteur. Parce que c'est un sample d'ABBA.
Ils en ont besoin d'ailleurs. Ils ont...
ils ont plus besoin, mais ils les prennent quand même.
Bon, on sait, en revanche, pour avoir une chance de voir Madonna en live, il faudra payer assez cher, au minimum 45 euros pour la moins bonne catégorie, 84 euros pour la catégorie 3. Et les 2 et 1 sont respectivement au prix de 133 et 276 euros. 386 euros pour le carré or.
Mon Dieu, 386 euros pour le carré or. Merci beaucoup, pourquoi ça vous fait marrer?
Parce que ça me fait toujours rire l'histoire des prix des places, parce qu'en France, dès qu'un Français, il met des places, voilà.
Cher.
Mais il se fait déchirer, les Américains, ils viennent, ils nous ouvrent en quatre, et tout le monde, oui, on a été voir le show, c'était très vraiment, c'était vraiment bien. Et les places, un peu cher, mais bon, ça les vaut.
Voilà, mais quand c'est en France, on peut pas. Merci Stéphanie. Les samedis et les dimanches, de 16h à 17h, vous présentez Musique avec votre voix de diva. Merci d'avoir été avec nous. On parlait cinéma avec Olivier Benkemoun. Gad Elmaleh reste dans Culture Média, évidemment.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
D'ailleurs, on est avec Gad Elmaleh. D'ailleurs, il parle avec Olivier Benkemoun. D'ailleurs, c'est un garçon dissipé et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Vous serez vendredi sur Canal Plus à voir à 21h votre spectacle D'ailleurs. Mais là, on va parler cinéma avec vous, Olivier Benkemoun.
D'ici et d'ailleurs, un peu quand même les deux. Hein,
votre indispensable. J'ai vu les affiches dans Paris, des petites affiches. On voit la tête de Ramzy. Youssef Salem a du succès. Youssef Salem, à l'écran, c'est Ramzy Bedia.
Ramzy, dans le rôle d'un écrivain qui ne veut pas du succès. Il n'en veut pas. Ça, c'est surtout pas de succès. Le succès, c'est pas que c'est vulgaire, c'est plutôt que c'est embêtant.
Youssef Salem, tu es officiellement sur la shortlist du concours.
Faut que je le dise à mes parents. Parce que Youssef Salem, 45 ans, il a pas tout à fait tout réglé avec ses parents. Il n'a pas envie de leur dire. Donc, surtout que pour son livre, il s'est librement inspiré de leur vie. Mais même beaucoup. Et de celle de son frère et de ses sœurs. Et quand on dit librement, ça veut dire on ne sait pas bien où est la vérité. Adultère, homosexualité, travestissement, consommation de prostituées, obsession sexuelle. Voilà la description qu'il fait de sa famille dans son livre, évidemment.
Comment t'as pu écrire un torchon pareil ?
Maman n'a jamais couché avec le maître nageur.
Je sais bien.
T'imagines si papa il tombe dessus ?
Ouais.
T'imagines le début.
Tu mériterais qu'on mette un contrat sur ta tête.
Ouais. Putain.
Ouais. Qu'on t'élimine.
Voilà, la famille donc, avec un contrat familial sur sa tête d'auteur et de l'autre surtout un contrat d'éditeur magnifique. Parce qu'évidemment, cet objet de scandale, ce choc toxique, c'est le nom du livre qui révèle les dessous d'une famille maghrébine marseillaise, va devenir le succès de vente de l'année, l'objet de débats interminables entre critiques. C'est la médiatisation et c'est exactement ce que ne veut pas Youssef.
C'est l'événement de cette rentrée littéraire, le premier roman du Marseillais Youssef Salem.
Hey, papa, change, regarde.
Youssef, c'est pas toi dans la télé?
Pousse-toi.
Plus de télé, hein. Il encaisse la télé, Youssef, tellement il a peur que son père tombe sur son lit. Ce film, il est formidable parce qu'il questionne ce qu'est le succès et ses conséquences. Bon, avec beaucoup d'humour, évidemment. D'abord, l'inspiration, quand la famille, c'est la matière première, ça peut devenir un jeu de massacre. Quand tu commences à parler d'une famille qui n'est pas tout à fait la tienne, mais qui ressemble, tu changes pas les prénoms, tu racontes le père algérien se travestit, la mère kabyle couche avec le maître nageur, tu te doutes bien que tu vas être un peu interrogé, non pas sur la beauté de l'écriture, mais pourquoi tu vas chercher tout ça dans ta famille, et surtout tu veux pas que celle-là elle tombe dessus, évidemment, ça se comprend.
Il faudrait arrêter de le vendre, s'il vous plaît.
Moi, j'aime pas du tout votre petit mépris d'auteur.
C'est une question de vie ou de mort.
Après, il y a les dessous de la fabrique d'un succès littéraire. Et là, ils sont allés joyeusement là-dessus. C'est Noémie Lovski qui joue l'éditrice de Youssef Salem, qui va le cornaquer, lui expliquer les règles de la mise en orbite d'un livre. Évidemment, le scandale, elle le place, disons, au sommet de la fusée de la réussite.
Ils vont te scruter, ils vont filmer avec leur téléphone portable. C'est pas le moment de dire des conneries. S'il y a un jour où il faut pas que tu boives, c'est aujourd'hui, c'est ce soir.
Il faut faire attention avec la boisson.
Dans les photos, tu t'es vu quand t'as bu.
Voilà, Dry January pour un auteur qui va au concours. Enfin, il y a le questionnement sur les origines, sur ce que c'est que d'être un écrivain venu d'une famille maghrébine, marseillaise, qui essaye de s'intégrer, de vraiment être dans la ligne de ce qu'elle doit être, la limite de ce qu'il peut se dire, le rapport à la religion, à l'interdit, le poids que ça prend dans la création, l'obligation de faire le chemin tout seul en laissant parfois les frères, les sœurs et les amis derrière. Est-ce que c'est nos limites pour y arriver, vraiment prêt à tout pour le succès? Bah, Youssef Salem apportera une réponse radicale, drôle et totalement inattendue.
C'est vous qui avez écrit ce bouquet magnifique là ?
Oui.
Je suis reconnue, je sais pas, cette famille.
Vous êtes une arabe ?
Ça vaut pas, non, ouais, je suis pas arabe. Non, moi je suis marseillaise.
Voilà, comme ça, on a pour tout le monde.
Merci beaucoup, ça s'appelle Youssef Salem a du succès de Baya Kasmi en salle depuis hier avec Ramzy Bedia. Ça vous parle, c'est des questions que vous posez quand vous racontez les histoires de votre famille.
J'ai vraiment hâte de le voir, ouais.
Pareillement, est-ce que vous qui faites du one man show mais qui est très personnel, qui est du stand-up, vous posez la question, quand je raconte ça et ça sur ma sœur, sur mes parents, les cousins, comment c'est pris?
Oui, oui, et en même temps c'est un peu, j'ai une petite technique, c'est que je les avertis, je teste un peu sur eux, je les prépare et puis parfois on peut avoir des surprises parce que parfois ils peuvent mal le prendre, mais là ils sont habitués, ça fait des années que je m'inspire d'eux, que j'arrête pas de le faire et puis je les mets en avant, c'est jamais de la moquerie, c'est jamais donc ça va, maintenant ils sont habitués quoi.
Vous avez déjà été fâché avec des membres de votre famille?
Pas fâché, mais il y a eu des mauvaises interprétations. C'est surtout quand les choses sont écrites.
Oui, bien sûr.
Quand c'est un spectacle, ça va. C'est dans les interviews parfois. Même en voulant faire plaisir à quelqu'un, tu parles d'un oncle à toi ou d'une tante, tu dis « Ah, et puis quand j'étais petit, tu reçois un coup de fil de toi, mais jamais j'ai dit ça !» Parce que tout à coup, ça prend une ampleur folle, elle se voit dans la presse, écrite, et puis aujourd'hui, maintenant, il y a tous les points.fr qui relaient tout, alors
et si les regards des autres,
Gad Elmaleh parle de sa tante, enfin, je dis « Mais pourquoi tu parles de moi ?» Voilà, tout est décuplé en fait.
Non, mais il y a beaucoup d'écrivains qui se sont fâchés. Christophe Donner, il s'est fâché avec la moitié de sa famille avec son premier livre, qu'ils appelaient Mon oncle.
Il ne faut pas écrire sur sa famille, c'est fâché.
Quand on raconte une sorte de famille, il se passe toujours ça. C'est la dernière droite de Culture Média. Je salue, je remercie Olivier Benkemoun, Stéphanie Loire, Gad Elmaleh. Je le remercie aussi d'être là jusqu'à 11h. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
D'ailleurs, c'est Gad Elmaleh, notre invité. Vous pourrez le voir son dernier spectacle demain, vendredi, sur Canal+. C'est à 21h, si vous n'avez pas Canal+, d'ici vendredi, vous avez largement le temps de vous abonner. Vous êtes fasciné par les gens, vous le racontez dans le spectacle, qui ont des accents bizarres, des tocs de langage, les gens qui bégayent, qui zozotent, ou alors qui ont des obsessions publiques. Vous racontez, j'en ris encore, votre rencontre. Vous êtes tombé sur un type qui vous a intrigué, c'était dans la rue.
Il n'y a pas longtemps, dans Paris, j'ai croisé un mec qui fredonne « Joyeux anniversaire » tout seul. Non, c'est chaud, ne me dites pas. Il y a très peu de probabilité pour que tu chantes « Joyeux anniversaire » seul dans la rue. Je me suis dit, soit il va à un anniversaire, il ne la maîtrise pas bien, il est en train de répéter. Soit c'est son anniversaire, je sais pas. Tu vois, il est là. « Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. » Il tourne dans une rue, je l'entends dire « Les cadeaux, les cadeaux. » Et moi j'aime, ça me passionne, je me démonte pas, je vais le voir et je lui dis « Excusez-moi monsieur, pourquoi vous chantez Joyeux anniversaire tout seul ?» Il me regarde, il me fait «
C'est parce que, en fait, est bloqué dans ma tête, ça fait 2 ans et demi, bloqué dans ma tête, Joyeux anniversaire. Ouais. Avant, j'avais la musique de la gare, elle était bloquée dans ma tête pendant 4 ans, tu connais la musique de la gare ? Ouais. »
Et tout est vrai.
Bon, après, alors presque.
Sauf la gare.
Non, sauf la gare, exactement. Parce qu'en fait, ça m'a donné l'idée de prolonger cette forme de folie. Moi, j'ai vraiment une fascination. Je retombe en enfance. Je suis curieux. Je suis complètement épaté. Je suis très, très, très perplexe et attiré. Par les gens qui sont un peu particuliers, et quand j'ai vu cet homme vraiment chanter Joyeux anniversaire seul, ça m'a beaucoup intrigué. J'ai pas été lui demander, j'ai voulu, mais je l'ai suivi en effet. Je l'ai vu dire les cadeaux, bravo. Et en fait, j'ai imaginé ce qu'aurait pu être la discussion avec cet homme. Et j'ai toujours eu ça depuis mon enfance, cette curiosité. Dès qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu différent de la norme, ça m'attirait.
Le spectacle se termine un peu comme il a commencé. Vous racontez que quelque chose a changé dans votre vie, qui fait aussi changer votre perception du métier et de la vie elle-même, qui est la cinquantaine. Plus loin, vous dites, la crise de la cinquantaine, tu cherches Dieu. Et là, vous racontez les différents rites funéraires et vous annoncez, et c'est là où c'est intéressant, ça va faire le lien avec ce film, que pour vos obsèques, déjà, vous voudriez que ça se passe dans une église. Ce qu'on n'attend pas chez vous. Et je me dis, là, les cousins, ils vont l'appeler. Ils vont dire, quoi, Gad ?
Oh oui, ça a commencé.
Ça va pas être à la synagogue.
Vous pensez bien qu'à la sortie de mon film, ça a commencé.
J'allais vous demander ça, quelles ont été les réactions ?
En fait, il y a eu
plusieurs... Il faut que je raconte quel est ce film. Je vais venir directement.
Bien sûr.
Vous racontez votre découverte et votre amour de la Vierge Marie. Je l'ai dit, film totalement atypique, qui marche, qui existe encore, qui est encore à l'antenne. Il est sorti mi-novembre. Il s'appelle Reste un peu. 475 000 entrées et c'est pas fini. C'est une sorte de docu-fiction parce qu'on vous voit au quotidien avec vos parents, joué par vos vrais parents. Il y a des discussions, notamment autour d'un dîner de famille. Quand votre mère comprend que vous allez vous convertir au christianisme, allez-vous le faire ou n'allez-vous pas le faire, on ne sait pas. Mais quand elle sent ça, elle a cette réplique, fais-toi adopter. Et elle ajoute, si tu changes de Dieu, change de parent. Ouais. Quel a été l'accueil dans votre famille ?
Alors je tiens à préciser que c'est une réplique inventée, improvisée par ma mère elle-même sur le plateau.
Ouais.
parce que la frontière entre la réalité et la fiction, à un moment donné, commence à se rétrécir. Ouais. Et elle dit cette phrase folle, un peu violente même. Tu changes de Dieu, change de famille. Et la réaction de la famille, ça va parce qu'ils étaient sur le plateau, ils étaient au courant. Mais c'est vrai que la réaction...
La famille au sens large.
Alors, une partie, je dis bien une partie. Parce que la communauté juive, ce n'est pas une identité, un visage. Il y a plusieurs judaïsmes, plusieurs manières de pratiquer le judaïsme. Il y a plusieurs communautés, il y a plusieurs mouvances dans la communauté. Avant d'avoir vu le film, il y avait une crispation folle. Avant d'avoir vu le film, c'est « qu'est-ce que tu fais ? T'es fou, mais c'est impossible, tu ne peux pas nous faire ça ». Et dès qu'ils ont vu le film, et je ne raconterai pas la fin du film, je les laisse aller le voir, il est encore en salle. Dès qu'ils ont vu le film, ils ont compris la démarche qui était plus... un éveil, une crise existentielle plus qu'un mouvement de conversion. Mais bon, après, chacun aussi fait semblant parfois de ne pas comprendre pour créer la polémique. Il y a certains rabbins youtubeurs, ça existe, qui ont voulu des followers et qui ont commencé à dire il faut boycotter le film. Quand ils ont vu le film, ils étaient un peu mal à l'aise. Mais ils ont boycotté, on va faire 500 000 entrées. Donc je leur demande s'ils peuvent continuer à boycotter pour qu'on arrive au million. Moi, ça me ferait plaisir. Par ailleurs, je pense que c'est un film qui rapproche et qui crée le dialogue entre les communautés et qui permet de s'interroger sur sa propre religion et sa propre identité, ce que tout le monde est libre de faire. Donc, c'est vrai qu'au départ, il y avait des gars dans la rue qui me disaient « qu'est-ce que t'as fait ?» Il y avait des cathos qui me disaient « bienvenue », mais les deux avaient tort. En fait, non, allez voir le film, c'est plus un questionnement, c'est plus un pont entre les communautés.
475 000 personnes ont déjà vu votre film, dont le pape François. Fin décembre dernier, vous avez rencontré le pape. À quelle occasion et qu'est-ce que vous vous êtes dit ?
Ça a été un moment très important. Ça a été une rencontre que je...
C'était à votre demande ?
Oui, qui a été marquante. En fait, pour préciser ce qui s'est passé, son entourage a vu le film. Et m'ont dit qu'il serait bien et sympa de lui montrer le film. Je dis, mais oui, mais moi, je ne vais pas appeler le pape. Enfin, c'est... Et donc, j'ai dit, j'aimerais le rencontrer. C'est un homme que j'ai envie de rencontrer, c'est le pape, mais c'est aussi la personne du pape François, avec tout ce qu'on connaît de lui en tout cas. Et c'est un être bouleversant, charismatique, humble, inspirant, joyeux, facétieux.
Vous auriez pu dire ça sans le voir, mais une fois que vous l'avez vu, qu'est-ce que vous avez dit ? Comment il est en vrai ?
J'étais très ému, on a abordé des choses assez inattendues, puisque c'était la fin de la Coupe du Monde. Et on a abordé, bien entendu, je l'ai félicité.
Pardon, juste un mot, en quelle langue ?
Français et italien. Alors moi, je ne parle pas beaucoup italien, mais je comprenais quelques mots, mais c'était 90% français, il est totalement francophone.
D'accord. Donc la Coupe du Monde.
La Coupe du Monde, je l'ai félicité parce qu'il est argentin.
Ouais.
Et voilà, malgré... la France a fait un match irréel. La virtuosité des Français, le génie des Français en finale, il était dingue. Mais l'Argentine a gagné, je me retrouve devant le pape qui est argentin, j'ai dit bravo. Et là, on a parlé de tellement de choses. On a parlé de la... fraternité judéo-musulmane au Maroc, de l'équipe nationale du Maroc et de son parcours. Et il savait que j'étais d'origine marocaine, donc il m'a dit que c'était génial. On a parlé de Claudel, de la Révélation, on a parlé de la Vierge Marie, on a parlé de la fête de Hanouka, on a parlé de Noël, on a évoqué plein de choses. C'était 20 minutes en tête à tête, tous les deux, tout seuls dans son bureau. Et j'ai montré des images de mon film après, par la suite. Et donc, on a beaucoup parlé de ça. On a parlé en tout cas de la fraternité surtout. C'est un moment qui m'a bouleversé. Et il m'a dit une chose que j'aimerais vous dire, parce que c'est un message que je dis aussi aux gens. Parce que finalement, quelle que soit notre religion, c'est un homme dont la préoccupation première tous les jours, quand il se réveille, c'est d'unir les hommes sur la terre, tant qu'il peut. Et alors, il m'a dit une chose bouleversante à la fin, avec beaucoup d'humilité et d'amour. Il m'a pris le bras, il m'a dit « Priez pour moi parce que c'est pas un boulot facile ». Ah, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette vanne ? J'ai rigolé, il m'a dit, non, c'est vrai, en rigolant, et je suis parti. Je dis, mais c'est super, quelle humilité. D'abord, qui suis-je pour prier pour le pape ? Mais en fait, voilà.
Tellement génial. C'est
quelle que soit notre religion, prions déjà les uns pour les autres.
L'actu immédiate, vous serez à Lourdes, on reste dans le sujet, vous serez à Lourdes jeudi prochain.
Oui.
C'est bien ça.
J'ai produit un spectacle là-bas qui s'appelle Bernadette, qui est l'histoire de cette petite Bernadette, en tout cas, de Lourdes. Et c'est un spectacle qui a eu un énorme succès, que j'ai produit avec Roberto Surlio et Eleonore de Gallard. Et en fait, ce spectacle, il va s'exporter dans plusieurs pays. Et on est en train de constituer les castings dans les différents pays. C'est un énorme succès. Il va venir en France au Palais des Sports à l'automne 2023.
Attendez, vous n'allez pas à Lourdes pour faire le casting de Bernadette?
Non, non, il a joué à Lourdes.
Pour les Journées Internationales, oui. Saint-François de Sales. C'est bien ça.
Exactement. Et le prix qui va être remis par le cardinal Parolin, Jacques Hamel. Jacques Hamel, ce prêtre qui a été assassiné lâchement et de manière tragique, voilà. Il y a un prix qui est remis et je vais assister donc à ces journées de la presse, en effet, catholique.
Dernière petite vanne, comme ça, parce qu'il y a une vanne formidable sur les protestants. Vous dites votre amour de la Vierge Marie et votre admiration des protestants. Vous pouvez la faire ici, elle dure une seconde.
Oui, car n'oublions jamais que les protestants sont des catholiques qui se sont mis à leur compte. Et ça, j'ai un grand respect pour les auto-entrepreneurs.
On restera sur
mais
cette
vanne. Mais elle est dans le
spectacle. Oui, elle est dans je ne peux pas l'inventer, puisque je l'ai vu hier. J'ai regardé le spectacle hier, je l'ai noté.
Merci Philippe, voici un journaliste professionnel.
Jamais je l'aurais pu l'inventer, celle-ci. Et la dernière du pape, c'est pas un boulot facile. Dire ça quand on est pape, c'est juste magnifique. Merci beaucoup Gad Elmaleh. Je rappelle donc, ce dernier spectacle est à voir sur Canal+. D'ailleurs, à partir de demain, 21h sur MyCanal, c'était un immense plaisir
Merci infiniment, Philippe, de vous avoir reçu ici
dans Culture Média. Nous, on se retrouve demain à 9h. On sera avec le chanteur Raphaël, déjà auteur sous son nom complet, Raphaël Haroche, de deux recueils de nouvelles, dont un couronné par le Goncourt de la Nouvelle en 2017.
Wow.
Il est romancier, son premier roman, on en dit le plus grand bien. Je le lis aujourd'hui, je vous dirai demain. Ça s'appelle Avalanche. Juste après le flash, Julia Vignali et Mélanie Gomez avec Bienfait pour vous, le programme du jour. D'abord, bonjour.
Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Alors aujourd'hui, on va bouger, on va plutôt même surtout inciter les jeunes à bouger, car bien sûr, c'est bon pour leur santé, mais c'est également très bon pour qu'ils apprennent mieux, pour qu'ils gagnent en confiance, pour qu'ils régulent mieux leurs émotions. Et puis au passage, ça nous fera peut-être bouger aussi un peu, Julia, ça c'est toujours utile.
Et puis vous savez, quand on a un petit trouble de l'attention comme vous et moi, vous si vous l'avez Mélanie,
ah bon
oui, vous l'avez, et ben ça fait du bien de se lever. On va se lever pendant Bienfait pour vous.
Et bouger. Ouais.
Voilà.
On va se lever, on va vous écouter. Merci encore Gad.
Merci
et je vous
Philippe,
dis à demain sur Europe. Salut.
Europe 1.